Seigneur Jésus, pour cette soirée autour de ta parole, merci Seigneur de nous aider à bien comprendre les choses qui vont être dites afin que nous puissions tous, d'un commun accord, te servir davantage et mieux. Merci Jésus. Amen. Toi, mon Dieu, monte un chant d'amour et de joie immense, je te bénirai en tout temps. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. C'est toi, mon Dieu, qui créa la terre et aussi le ciel, tu les as remplis de merveilles. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité. Je te dirai merci. Et toi, mon Dieu, tu n'as pour nous que des projets de paix et tu ne veux que le meilleur. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité. Je te dirai merci, toujours et même dans l'éternité. Je te dirai merci. Merci tous en tous. C'est bientôt Noël, c'est bientôt mon anniversaire, c'est formidable. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent sur le net, merci Olivier, merci Dieu te bénisse. Ah, ça c'est un joli petit dessin. Qui c'est qui m'a fait ce joli dessin? Très joli, mais j'arrive pas à lire qui c'est. Bien, on va lire dans Matthieu chapitre 13, verset 52 ce soir. Mais je vais vous lire dans la version La Parole Vivante d'Alfred Kuhn. C'est Jésus qui dit « Ainsi donc, à qui comparerai-je l'interprète des Écritures qui sait pénétrer les mystères du règne des cieux et qui a accepté de laisser Dieu régner dans sa vie ?» Il ressemble à un père de famille qui sait tirer de sa réserve des richesses nouvelles qu'il ajoute aux anciennes. Amen. Faites vous asseoir, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, on ne vit pas en communauté parce que c'est sympa, ni parce qu'on en a envie, ni par habitude. Certains nous disent, oh oui, mais depuis le temps, c'est devenu une habitude chez vous. Oui, c'est faire un sacré raccourci. Frères et sœurs, nous vivons en communauté uniquement parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Il faut quelque part des gens qui vivent en communauté. Parce que l'Église primitive était comme ça. Et c'est comme ça qu'elle doit être. Elle doit retrouver son origine avant de pouvoir être enlevée. Je ne dis pas que ceux qui ne vivent pas en communauté ne seront pas enlevés, mais je dis qu'il doit y avoir quelque part sur la terre un grain qui soit semblable à ce qui était semé au départ, à ce qui est mort au départ. L'Église, elle est morte en 325 au Concile de Nicée. Et nous avons retrouvé les quatre clés de Pierre dans Acte 2, 38, première chose, première clé, la repentance, deuxième clé, le baptême au nom de Jésus-Christ, troisième clé, la réception du Saint-Esprit, et troisième clé, la vie communautaire. Amen. Et on a ouvert un accès. On a ouvert avec ces clés-là, quelque chose a été ouvert à l'intelligence des mystères. La parole de Dieu, elle contient tout. Tout le monde peut la lire, mais pour certains, elle contient des secrets. Et adhérer à la communauté de Jésus-Christ, à l'Église de Jésus-Christ, c'est accéder au secret de Dieu. Accéder à la foi Selon ces quatre clés que nous donne Pierre, qu'il a reçues lui-même de Jésus, c'est entrer dans le palais, là où se trouve l'intelligence de ces mystères. Je dis intelligence, mais quand je dis intelligence, je ne dis pas seulement une intelligence qui résulte des efforts intellectuels. À la communauté, nous ne faisons pas que des efforts intellectuels, nous ne faisons pas que des efforts de réflexion, des études, bien sûr que nous étudions, mais nous avons le souci de nous engager par rapport à la réalité dans un vécu. Dans un vécu. Nous nous engageons et nous nous sommes, quand nous nous sommes engagés, quand nous avons décidé de suivre le Seigneur, nous nous sommes engagés à le suivre dans le vécu, pas simplement de nous bourrer la tête avec des connaissances biblique pour pouvoir dire oui, nous savons, nous connaissons. Et nous nous sommes engagés et nous continuons à avoir ce souci, à nous engager dans la réalité vécue en gardant les yeux fixés sur une chose très importante qui est un signe tout à fait unique dans l'histoire de ce monde, c'est le retour de Jésus sur les nuées du ciel. Jésus, nous savons, doit revenir à la fin du temps des nations. Et nous avions déjà appris que la fin du temps des nations se situait aux alentours de 1997. Vous vous rappelez qu'on avait appris ça? Vous me regardez là comme si vous dormiez. Vous vous rappelez qu'on a appris ça? Oui? Et on l'a appris parce que le frère Branham avait dit ça. Et des gens disent que frère Branham a prophétisé que la fin du monde aurait lieu en 97, pardon, en 77, en 1977. C'est faux. Le frère Branham n'a jamais dit que la fin du monde aurait lieu en 1977. Il a dit, je pense, je fais un pronostic, d'après ce que je comprends des Écritures et des visions que j'ai eues, que le temps des nations, ça, le fin, ça mettra, il y aura un terme au système, n'est-ce pas, en 1977, j'ai dit quoi, 97 tout à l'heure, non, c'est 77, voilà pourquoi vous me regardiez bizarrement. Donc nous l'avons appris dans un premier temps, au travers du prophète actuel, le dernier prophète majeur de l'Église, hein, au travers des sept âges, et puis nous l'apprenons maintenant par le premier prophète qui a parlé au nom du Seigneur, c'est-à-dire Énoch. C'est quand même extraordinaire, la boucle est bouclée. On l'a appris par le prophète de notre temps, et puis on l'a appris par le prophète Enoch, qui était le premier à donner cette date. Il ne dit pas en 1977, mais il l'explique de façon à ce que nous puissions comprendre et que nous puissions faire le calcul. Et il dit que ceux qui font bien le calcul de leurs jours sont heureux, c'est-à-dire en marche, et ils connaissent les choses, ils savent les choses. Et nous savons, il a donné la même date. Frère Branham ne connaissait pas du tout le livre d'Enoch. Jamais lu ça. Et Jésus compare un interprète de l'Écriture, ou si vous avez peut-être une version plus moderne, un scribe, ou plus ancienne d'ailleurs. Il y a beaucoup de versions qui parlent de scribe, mais un scribe, c'est un interprète des Écritures, et c'est quelqu'un qui s'occupe donc des Écritures, de les écrire, de les interpréter, de les expliquer. Il compare donc un interprète de l'Écriture à un père de famille, un père de famille qui a un trésor dans la version seconde, et qui a un cellier dans la version de Chouaki. Alors un cellier, c'est une espèce de réserve, si vous voulez, c'est une pièce, c'est un lieu frais où on entrepose le vin et puis aussi des provisions, la nourriture, enfin des provisions. C'est une réserve. Et un père de famille qui a une réserve, voilà, Jésus le compare à un homme qui est interprète des Écritures, à un père de famille qui a une réserve. Et cette réserve, ce père de famille, il sait, c'est-à-dire il a un savoir. Il sait tirer de là des richesses qui sont nouvelles pour les ajouter aux anciennes et vice-versa, et donner ceci et donner cela en temps voulu. Il sait ce qui convient de tirer de sa réserve. Il a une réserve, c'est la sienne, et il sait ce qui convient de tirer. Il tire des richesses, pourquoi? Pour les distribuer à sa famille. Un père de famille, hein? Et sa famille, elle a des besoins et il sait quels sont les besoins de sa famille. Il connaît même les besoins de chaque membre. Il va peut-être pas donner la même chose à la petite fille que à la grand-mère, que vous voyez, il connaît les besoins de chacun. Dans sa réserve, il a des richesses nouvelles, il a des richesses anciennes, et il tire pas toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il est pénétré du mystère du règne de Dieu. Le père de famille, il est pénétré des mystères de sa famille. Il connaît tous les mystères, il connaît tous les secrets, il connaît tous les besoins, il connaît tous les trucs. Il sait, il est au courant parce qu'il aime les gens de sa famille. La communauté, l'église de Jésus-Christ, ici-bas, elle est la manifestation visible, terrestre, du mystère de l'épouse céleste. Et le scribe, l'interprète des Écritures, il sait à quel moment il doit tirer ceci, ou alors il doit tirer cela, parce qu'il a accepté lui-même de laisser Dieu le conduire dans sa vie. Alors, il a ce savoir, il sait tirer, une fois une chose nouvelle, une autre fois une chose ancienne. Alors, certains dans la famille n'aiment pas tellement les choses nouvelles. Hein? Et un peu comme les enfants qui n'aiment pas certains aliments. Ben non, ça c'est pas bon, ça j'aime pas. Hein? Vous rappelez, Lucas, il aimait pas le persil. Mettez du persil sur un plat, ça y est, c'était fini. Je me rappelle, c'était rigolo. L'autre jour, j'ai demandé, et le persil, il me dit, non, j'aime toujours pas ça. C'est rigolo, il y a quelque chose contre le persil. Eh ben, voilà. Mais celui qui a le savoir, le père de famille, ou le scribe, ou l'interprète des Écritures, il sait ce qui est bon pour l'enfant. Il sait. Et il sait ce que l'enfant doit manger, même si l'enfant, il n'aime pas trop. Hein? Et ça, c'est un problème pour l'enfant quand le papa lui dit, bon, maintenant, il faut que tu manges tes brocolis. Hein? Les enfants, en général, ils n'aiment pas les brocolis. Qui sait, les enfants ici, qui aiment les brocolis? Ah, il y en a quand même trois. Ah, ben, dis donc. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants sains, magnifiques. Parce que je vous promets, c'est vraiment bizarre qu'il y ait des enfants qui aiment les brocolis. En général, ils n'aiment pas ça. Mais bon, l'enfant, il ne sait pas trop pourquoi le papa, il insiste pour que, voilà, il faut que tu manges tes brocolis. Ce n'est pas pour faire de la peine au gamin, c'est parce que dans le brocoli, il y a ce qu'il faut pour que le gamin puisse avoir les vitamines nécessaires, les oligomènes nécessaires, les machins qu'il faut. C'est un problème pour l'enfant, mais ce n'est pas seulement un problème pour l'enfant, c'est aussi un problème pour le père de famille. Parce que pourquoi? Un père de famille, il veut faire plaisir à sa famille, il veut donner des choses qui font plaisir. Mais la nourriture, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi quelque chose dont on a un cruel besoin. On a besoin. Alors, il peut arriver que parfois, ils doivent donner justement donc des brocolis à ses enfants parce que l'enfant il manque de quelque chose, mais l'enfant il préférerait des glaces. Et ah non, moi j'aime mieux les glaces, je veux manger des glaces. Mais tu auras ta glace si tu manges d'abord ton brocoli. Ou alors tu n'auras pas ta glace parce que c'est pas bon pour toi aujourd'hui. T'as mal aux dents, t'as des machins, t'as des trucs. Il faut pas, en ce moment, faut pas de sucrerie ou que sais-je. Ce que je vais vous dire, c'est que ça peut être un souci pour le papa ou pour la maman de donner à manger quelque chose à son enfant parce qu'il en a besoin alors qu'il n'aime pas cette chose-là. Et oui, c'est un problème donc pour le père de famille, pas seulement pour le gamin. Et le père de famille, qui est pénétré des mystères de sa famille, des besoins les plus cachés, va devenir parfois impopulaire, désagréable, mais c'est par amour. Mais ça, allez le faire comprendre au gamin. C'est difficile de faire comprendre ça à un enfant. En donnant à sa famille ce dont elle a besoin, et non pas ce dont forcément elle a envie. Eh bien, c'est la même chose pour les interprètes des Écritures. Il y a des choses anciennes, il y a des choses nouvelles, et tout le monde n'aime pas les choses anciennes, ou alors tout le monde n'aime pas les choses nouvelles. Et enfin, aussi, les enfants qui sont là pour manger la nourriture spirituelle ne comprennent pas tout, et les choses qui paraissent nouvelles à certains sont pourtant des choses anciennes, mais ils ne savent pas, ils mélangent tout, et ils disent « Ah ben non, moi j'aime mieux ça, j'en ai marre cette prédication, j'ai déjà entendu prêcher là-dessus, oh non, je veux pas, ou alors, oh il est dur, vous voyez ?» Toutes sortes de choses, on n'aime pas forcément ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qui est donné dans l'Église. On n'aime pas forcément, mais pourtant c'est ce dont on a besoin. Dieu nous a donné des choses anciennes, par exemple le lavage des pieds, c'est quelque chose de très ancien. Le baptême pour les morts, c'est quelque chose de très ancien, qui s'est pratiqué jusqu'au 4e siècle. Donc ça fait quand même longtemps, hein, c'est vieux. Le livre d'Enoch, c'est quelque chose de très ancien. Eh bien, pour certains, ça leur paraît nouveau. Ah, c'est une nouvelle doctrine, hein? Alors que c'est ancien, mais étant donné qu'ils ne savent pas, eh ben ça leur paraît nouveau. Et alors ils voient des choses, ça ils voient, ah ben oui, tiens, c'est écrit dans la Bible. Mais voilà, ça veut, ils veulent bien que ça soit écrit dans la Bible, mais pas dans leur vécu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement pour enrichir notre intellect, mais c'est pour que ça soit transformé en vécu, en pratique. C'est comme quand on mange des brocolis, c'est pas simplement pour le plaisir de manger quelque chose de pas bon, c'est parce que c'est quelque chose qui est vital dans le brocoli. Dans le brocoli, vous allez dire que j'ai des actions chez brocoli. Dans le brocoli, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires à notre santé, etc., etc. Dans les glaces aussi, mais moins quand même, hein. Je vois Simone qui rigole, elle me comprend. Alors, je pense que Simone, elle aime les glaces au brocoli, par contre, hein. C'est ça, voilà, c'est ça le truc. Alors, à qui est la réserve? Voilà encore un qui ne sait pas qu'à cette heure-là, je prêche, vous voyez? Ben, voilà, ben, on va le laisser sonner. Hein. Donc, je disais, à qui est la réserve? À qui est cette fameuse réserve? Eh bien, elle est au père de famille, elle est au scribe, elle est à l'interprète des Écritures. Et il tire dans sa réserve, nous dit Jésus. Mais bien que ça soit sa réserve, il en tire pour donner à sa famille. Il en tire pour donner aux autres. Et les pères indignes, parce que ça existe, des pères indignes, ils vont dans leur réserve manger en cachette les bonnes choses, et puis ils donnent pas, n'est-ce pas? Mais les religieux aussi font ça. Il y a des scribes qui font ça, hein, qui se réunissent entre eux, et puis qui se font plaisir en parlant de choses très profondes, mais qui ne veulent pas en parler à leur église, à leur famille, parce qu'ils disent, ils sont trop bêtes, ils vont rien comprendre. Ou alors, oui, la dernière fois que j'ai essayé de parler de ça, ça m'a fait que des problèmes, donc j'en parle plus. Vous voyez? Il y a tout ça, il y a tout ça. Après avoir remarqué les attitudes négatives de la famille, il se dit, en fait, bon, je vais leur donner ce dont ils ont envie, parce que finalement, comme ça, moi, je vais être leur copain. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'églises. Les pasteurs leur donnent ce dont les gens ont envie parce que ils en ont marre de se prendre des claques chaque fois qu'ils disent quelque chose qui vient de la part de Dieu. Chaque fois qu'ils disent quelque chose de spirituel, de profond, que Dieu veut qu'ils transmettent, à chaque fois, ils se prennent des coups. Alors, ils en ont marre et ils démissionnent. Et c'est comme ça qu'on voit des églises qui peuvent être des églises pleines de monde. Oui, pleines de monde qui font quoi? Rien, rien d'autre que de chanter, taper des mains, alléluia, les choses sont grasses, c'est super, les brocolis sont bons, ou les glaces. Mais enfin, de toute façon, le serviteur de Dieu a baissé les bras, il a dit non, j'en ai marre, je veux être copain avec tout le monde, donc je vais donner quelque chose, une bouffe, voilà, qui passe partout. Et ben, c'est dommage, mes frères et sœurs. Un scribe qui est vraiment pénétré des choses du mystère de Dieu et qui a décidé d'obéir à Dieu, de servir Dieu, il ne fait pas une chose comme ça. Et il va être impopulaire. Et ça, c'est le truc de tous les serviteurs de Dieu. Je dis de tous ceux qui sont sérieusement des serviteurs de Dieu. Prenez dans la Bible, montrez-moi un exemple d'une personne, d'un serviteur de Dieu qui a été populaire. Et pourquoi ils n'étaient pas populaires? Parce qu'ils donnaient une nourriture que les gens n'aimaient pas et leur donnaient des brocolis. Pauvre brocolis, ce soir, c'est leur fête, là. Bon. Je veux plus être le méchant qui force les autres à manger des brocolis, c'est-à-dire des vitamines, des choses dont ils ont besoin. Je vais être le pasteur gentil qui va leur parler de Zachée et alléluia, la barque, la tempête calmée et gloire à Dieu, Jésus marche sur l'eau, vous pouvez le faire aussi. Et voilà, et des choses comme ça. Jésus, en disant ce qu'il dit là, il montre qu'il y a donc deux sortes d'interprètes des Écritures, mais il le montre d'une façon un peu cachée. Premièrement, il y a ceux qui sont pénétrés du mystère du règne des cieux et qui se sont arrêtés là. Et puis, il y a ceux qui sont pénétrés du mystère du règne des cieux et qui ont accepté de laisser Dieu régner dans leur vie, quoi qu'il en coûte. Ceux-là, ils sont rares. Enoch est le plus vieux prophète que la terre ait porté. Le plus vieux, 5300 ans. 5300 ans. Son livre, il devrait se trouver avant celui de la Genèse. Il devrait être, parce qu'il était écrit avant la Genèse. Avant Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est écrit avant. Ça devrait être, ce livre-là devrait être dans votre Bible. Tout de suite, lorsque vous ouvrez votre Bible, on devrait trouver le livre d'Enoch, comme on trouve l'Apocalypse à la fin. Et les pères de la famille juive et les pères de la famille chrétienne n'ont pas sorti ce livre de leur réserve. Ils ont essayé pendant un certain temps et ça a été terrible. Ça a fait des problèmes. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire. Alors, Dieu nous l'a confié à nous. Pourquoi à nous? Michel, tu ne crois pas que tu es un peu orgueilleux de penser que Dieu le Père t'a donné à toi, Michel Jonton, qui vient de Suisse, né le 5 février 1950, fils de Charles Jonton et de Madeleine Jonton, qui est une simple ménagère et ton père un simple bonhomme qui conduisait des camions. Est-ce que tu crois vraiment que à toi Dieu t'a donné? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours fait comme ça. Dieu a toujours fait comme ça. Il choisit toujours les plus insignifiants, ceux qu'on peut mépriser facilement, parce qu'ils sont méprisables, parce qu'ils n'ont rien d'extraordinaire, parce qu'ils sont des minables. Dieu choisit cette sorte de personnes-là que personne ne veut. C'est comme ça. C'est son truc à lui. Il a toujours fait comme ça. Montrez-moi où est-ce que Dieu fait autrement dans la Bible. Il fait jamais. Mais alors, maintenant, vous aimez tous le roi David, mais si vous aviez vécu à l'époque, de quel côté vous auriez été? Maintenant, on trouve tous que Joseph est extraordinaire, mais en son temps, vous auriez été de quel côté? Je ne parle pas de sa période glorieuse, hein, je parle de. Hein? Et de tous les autres, de tous les autres, même de Jésus. On dit, ah, moi, si j'avais vu Jésus, ben oui, ben, ah bon, vous pensez vraiment que vous auriez été du bon côté, et que vous auriez été jusqu'au bout avec lui? Hein? Alors, Dieu nous a confié cette tâche. Bon, il nous a choisis pour être sa bouche, pour révéler non pas qui nous sommes, nous autres, à la communauté du sanctuaire, parce que ça, c'est pas intéressant, mais pour révéler ce qu'il est, lui. Voilà pourquoi il nous a choisis. Le livre d'Hénoc, c'est un des grands mystères du règne de Dieu. Un des grands mystères du règne de Dieu. Livre écrit, puis caché. Puis lu en secret par des érudits, et puis recaché de nouveau pendant 1400 ans. Ça fait 1400 ans qu'il était tenu complètement caché. Déjà avant, mais il était ressorti là, parce que quand Jésus a apparu, il y a des hommes de foi, des gens comme qui étaient dans les religieux, comme Nicodème et d'autres, qui se sont convertis et qui, eux, avaient accès au livre d'Hénoc. Et quand ils se sont convertis, ils ont apporté ça aux apôtres, qui ont commencé à lire ça, à voir ça. Comme Jude, par exemple, il a lu ça, il a vu. Ils ont, dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, et Jésus lui-même, il cite Hénoc, sans même forcément dire que c'est Hénoc qui l'a dit, mais il le cite. Ceux qui ont lu le livre d'Hénoc, ils savent que dans tout le Nouveau Testament, il y a des citations qu'on trouve dans Hénoc. Mais très vite, après les apôtres, ce livre a de nouveau disparu. Il était gênant. Alors, l'Église a dit, oui, il est gênant, alors parce qu'il parle du sexe des anges. Mais ça, c'était le faux prétexte. En réalité, il était gênant parce qu'il dénonçait leur nicolaïsme, c'est-à-dire leur autorité mal placée. Voilà pourquoi il était gênant, parce qu'il les accusait, eux. Et voilà pourquoi ils l'ont tenu caché. 1400 ans, il a disparu. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, vous savez que quand un pape dit une chose, c'est in aeternam, c'est-à-dire que c'est toujours valable. Aujourd'hui encore, vous êtes maudit si vous lisez le livre d'Hénoc, d'après l'Église catholique. Vous le savez? Eh bien, moi, je suis maudit beaucoup, 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 hein, parce que qu'est-ce que je l'ai lu? Est-ce que vous avez peur d'être maudit par l'Église catholique? Moi, au contraire, si vraiment vous êtes né de nouveau, vous allez vous précipiter sur ce livre pour le lire, pour savoir, mais pourquoi cette église apostate maudit-elle les gens qui lisent ce livre? On veut savoir, hein? Non, mais ça, c'est peut-être un petit peu mon côté provoque, tout le monde n'est pas comme moi. Mais voilà une église qui est appelée dans l'Apocalypse la grande prostituée qui maudit ce livre. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec ce bouquin. C'est quoi cette chose extraordinaire? Le 7 juin 1987, c'était le jour de la Pentecôte. Quelques anciens qui sont là ce soir savent, ils étaient témoins, ils étaient là. J'ai prophétisé que Dieu allait nous parler, que Dieu allait nous donner quelque chose d'extraordinaire, de nouveau. Le soir, on a regardé une émission de télévision, et dans cette émission-là, on a appris une chose fantastique, c'est que le 29 novembre 1947, le jour où l'ONU décidait de partager la Palestine entre Juifs et Arabes, qui allaient chacun recevoir leur territoire, le 29 novembre 1947, ce jour-là, Il y a un professeur qui s'appelle Sukenki, qui est spécialiste de paléographie judaïque à Jérusalem. Il faisait connaître au monde, ce même jour, la valeur exceptionnelle d'une grande découverte archéologique, les manuscrits de la Mer Morte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Israël est né de nouveau, qu'il est de nouveau sorti comme une nation telle que ça avait été prophétisé par Jésus, ce jour-là, le plus vieux prophète du monde est sorti de terre. Le même jour, annoncé au monde en même temps, le même jour, là, dans les grottes de Dieu, là, dans la réserve de Dieu, dans le cellier de Dieu, se trouvait entre autres le livre d'Hénoc. Le septième depuis Adam, et le même jour, le jour de la résurrection d'Israël, le plus vieux prophète du monde sortait de terre son livre. Le 9 juin 87, je possédais ce livre, le plus vieux livre du monde. Je l'ai dit. Et les chrétiens disaient, ah bon? Tiens, passe-moi le sel. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que doit faire un interprète des Écritures? Que doit faire un homme de Dieu qui a été choisi par Dieu? Il doit se pénétrer des mystères du royaume des cieux. Quand j'ai vu que c'était l'indifférence totale, quand j'en parlais dans les pastorales, et Dieu sait si j'en ai fréquenté, quand j'en parlais dans les écoles bibliques, et Dieu sait si j'ai prêché, si j'ai enseigné dans les écoles bibliques, je voyais les gens avec les yeux tout ronds, la bouche ouverte, qui me regardaient, puis qui à la fin posaient des questions complètement bananes, je me suis dit, j'arrête. Et je vais me pénétrer de ces mystères moi-même d'abord, pour bien savoir, pour bien connaître. Et j'ai accepté ensuite de laisser Dieu régner dans ma vie. Et depuis 87, je me suis pénétré des mystères de ce vieux livre d'Hénoc. Et j'ai ajouté, comme le dit Jésus, l'ancien au nouveau. Mais maintenant, ça va vous demander une gymnastique, parce que l'ancien, c'est pas la Bible. La Bible, c'est le nouveau. L'ancien, c'est Hénoc. Hénoc, c'est bien plus ancien que la Bible. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et aujourd'hui, l'heure est venue de déposer ça sur la table de la famille. Sur la table de la famille chrétienne, sur la table de la famille juive. Mes frères et sœurs, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Je l'ai fait. Mission accomplie, je l'ai fait. Mais maintenant, je ne peux pas manger ce livre à votre place. Vous allez me dire, c'est un goût de brocoli, ton histoire. J'aime pas ça. Je ne te dis pas que tu vas aimer manger ce livre. Je ne dis pas que ça va te paraître très, très agréable, ce que tu vas manger. Je ne te dis pas que ça va être facile à digérer, ce livre. Je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas que adapter ce qui est écrit dans ce livre à ta vie, ça va pas être, je ne te dis pas que ça va être facile. Mais il faut que ce livre devienne une connaissance pour toi, mais plus une connaissance, il faut que ça devienne quelque chose de vécu, il faut que ça se transforme dans ta vie, il faut que ta vie en soit transformée pour que tu aies cette lumière dans ta lampe. Il faut que tu aies cette lumière dans ta lampe. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui est si important? Eh bien, c'est tellement important ce qu'il y a dans ce livre que quand tu en auras pris conscience, tu voudras être témoin de ce livre. Tu vas prendre à cœur de continuer ce qui a été commencé. Et il faudra que tu décides dans quel camp tu vas te mettre, dans le camp de l'Église catholique qui dit maudit et quiconque lit ce livre, ou du côté des abrutis comme nous, ici au Château Sanctuary, qui croient que ce livre est inspiré par Dieu pour notre génération. Il va falloir que tu fasses un choix de continuer à ce qui a été fait du mauvais côté, de la puissance sombre, des religieux qui ont tenu cachée cette chose, ou du côté du miracle de Dieu, qui est sorti le jour de la création de l'État d'Israël. Quelle œuvre tu vas continuer? Est-ce que tu vas pouvoir rester neutre? Est-ce que tu vas pouvoir rester là, rien faire, avec ce trésor-là dans ta réserve? Parce que maintenant c'est dans ta réserve. Tu vas dire, non, c'est pas encore dans ma réserve. Oui, c'est dans ta réserve du seul fait que tu entends déjà ce que je dis ce soir. Rien que parce que tu l'entends, tu es déjà responsable devant Dieu. De connaître toi-même, de faire connaître ce livre, de l'offrir, de l'étudier avec les autres, avec tes enfants, avec les gens de ta famille, de le partager. Je crois que ce livre est bien plus riche qu'aucune des prédications que j'ai pu donner en 43 ans de ministère. Beaucoup plus. Beaucoup plus. 43 ans que je prêche. Il y a plus de 600 prédications sur Révélation Bible des quelques dernières années que j'ai fait. Combien de fois j'ai prêché? Combien de fois j'ai tenu ce micro ou d'autres micros de par le monde pour prêcher l'évangile? Combien de fois j'ai vu des miracles pendant mes réunions? Eh bien, tout ça, oubliez-le. C'est ce livre qui est le couronnement. Ce livre d'Enoch est un des plus grands mystères du règne des cieux. L'épouse, c'est le plus grand mystère, c'est-à-dire Christ en nous, qui n'est pas encore révélé. Ça, c'est le plus grand mystère, Christ en nous, l'épouse de Christ. Mais tout de suite derrière, c'est ce livre d'Enoch qui boucle la boucle. Ce livre est un livre de prophétie. Ce livre, il décrit l'histoire du monde, toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde est dans ce livre. L'origine du mal, ces questions que tout le monde se pose, mais d'où ça vient, mais comment est-ce possible? Tout est là. Tout est dit dans ce livre, tout est expliqué là. Ce livre, c'est une apocalypse. Pas dans le sens d'une catastrophe, maintenant les gens pensent que le mot apocalypse, ça veut dire catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est une apocalypse dans le sens de c'est une révélation totale du pourquoi Dieu a créé ce monde, du pourquoi nous sommes ici. Alors il paraît indigeste à certains, ça c'est certain, voilà. Il va peut-être même... Pour vous, et ben vous, il y a eu des moments où il m'a paru indigeste. Je me rappelle, j'apportais les notes à Simone, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai sué avec ce chapitre-là, je comprenais rien, il a fallu que je prie, des fois ça durait 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi avant que j'y apporte quelques feuilles pour qu'elle puisse voir pour les corrections. Parce que je comprenais rien, je me mettais dans la prière pour savoir, mais ça veut dire quoi, Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que tout à coup la lumière venait. J'ai tiré de mon trésor, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ma réserve, celle que Dieu m'a donnée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, et qui donc n'auront pas la chance de trouver ce trésor-là. Mais vous me connaissez. Alors votre responsabilité, c'est de connaître maintenant cette nourriture que j'ai là dans ma réserve et que je vous offre. Dieu a voulu que nos chemins se croisent. Vous qui écoutez ce message enregistré, Dieu a voulu que vous écoutiez ce message enregistré pour que vous preniez connaissance de ce livre et que pour que vous fassiez connaître ce livre à d'autres. Tout le monde ne peut pas me connaître, mais si vous qui me connaissez, vous faites connaître à d'autres ce livre, ils vont le faire connaître à d'autres, etc., etc., en très peu de temps, on peut le faire connaître au monde entier. Mais encore faut-il se réveiller un peu. Se réveiller un peu. Se prendre par la main. Puis dire, bon, c'est vrai, il y a des besoins. Alors je vais pourvoir aux besoins. Je ne vais pas simplement compter sur ceux qui tiennent le micro à la main. On peut le faire de 1000 façons différentes. De 1000 manières différentes. On peut le faire pour faire connaître la parole de Dieu. Dieu a voulu que nos chemins se croisent pour que vous fassiez connaître aux autres. Il vous a choisi pour ça. Rien n'est un hasard. Paul disait en son temps, ne méprisez pas les prophéties. Bien, mes frères et sœurs, ce livre est un livre de prophétie. C'est un livre de prophétie majeur, je dirais même. Alors, obéissez à Paul, ne le méprisez pas. De plus, on pourrait dire, oui, Michel, là, qu'est-ce que tu nous fais? La promotion de ton nouveau livre, je ne gagne pas un sou dessus. On ne le vend pas. Comment voulez-vous, après ce que je vous ai raconté, qu'on ose toucher un centime d'argent là-dessus? Mais on n'ose pas. C'est trop sain. On n'oserait pas. Ce n'est pas possible. Nous l'offrons. Peut-être qu'on devrait le vendre, si on le vendait très cher, peut-être ça attirerait la curiosité des gens et puis ils se mettraient à l'acheter pour savoir pourquoi c'est si cher. Tellement tordu. En tout cas, personne ne pourra dire « je ne pouvais pas ». Beaucoup pourront dire « je ne voulais pas ». Mais personne ne pourra dire « je ne pouvais pas ». Frères et sœurs, il est primordial que vous connaissiez ce livre de prophétie. Je vous l'ai dit, Dieu m'en est témoin. Amen. Merci Jésus pour cette force que tu m'as donnée de prêcher ce message alors que je suis vraiment grippé ce soir. Merci mon Dieu pour la force que tu as renouvelée en moi pour que je puisse le faire et que mes frères et sœurs soient atteints par ce message que tu m'as confié. Je te bénis, mon Dieu, je te prie que tout le monde se prenne très au sérieux dans cette affaire et que personne ne se minimise, mais que tous se rendent compte de l'importance que cela a, que ce n'est pas des hasards. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen.